Bonjour et bienvenue dans l'émission Enquête ou Enquête d'Histoire, présentée par Jeanne-Marie. Je suis historienne et j'ai envie de faire revivre le passé de notre département car son histoire est riche et mérite d'être mieux connue. Cette émission de 30 minutes sera mensuelle. J'y accueillerai un intervenant, historien ou archéologue, ou autre à qui je poserai des questions. Bonjour aux auditeurs de Radio MDM. Bonjour Didier.
Bonjour Jeanne-Marie.
Tout d'abord, je demande aux auditeurs de cette émission de nous excuser, Didier et moi, pour l'émission du mois de mars qui n'a pas pu être enregistrée. Didier n'avait plus de voix, mais alors plus du tout, du tout. Donc il n'a pas pu parler pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, Didier, est-ce que tout va bien ?
Ça va un petit peu mieux, mais heureusement que ça va mieux, puisque il y a encore 3 semaines, j'étais obligé de chuchoter. Et là, ce n'est plus le cas, donc ça va très bien.
Alors, c'est tant mieux. Je rappelle que vous écoutez l'émission Enquête ou Enquête d'Histoire, une émission mensuelle diffusée sur Radio MDM, le mardi à 13h et le dimanche de la même semaine à 13h30, avec rediffusion la semaine suivante. Consultez au besoin la grille des programmes et n'oubliez pas que des podcasts de l'émission sont à votre disposition pour une réécoute. Donc, aujourd'hui, nous allons ensemble avec Didier Vigneault, archéologue, qui termine donc son doctorat sur le bassin de la Midouze durant la période gallo-romaine. Nous allons aborder le sujet des déplacements dans les Landes il y a 2000 ans. Alors, Didier, je vais rappeler ce que l'on disait de la circulation dans les Landes au Moyen-Âge, à savoir que cette région était inhospitalière, infestée de moustiques et qu'il fallait donc la contourner. Donc si elle l'était au Moyen-Âge, elle devait l'être dans l'Antiquité. Et pourtant, nous avons vu que l'ensemble de notre département était peuplé dans les émissions précédentes, hein, y compris dans la Haute-Lande, et donc cela signifie que l'on se déplaçait et que l'on voyageait. Tout le monde connaît le perfectionnement du réseau des voies romaines qui a irrigué absolument tout l'Empire durant des siècles. Des parties de voies romaines ont été conservées dans le sud de la France ou ailleurs. Les archéologues en ont découvert énormément. Et qu'en est-il dans les Landes ?
Eh bien, dans les Landes, c'est comme partout ailleurs, hein, comme nous en avons discuté au cours de notre dernière émission. Il y avait des hommes et des objets qui ont circulé, notamment au cours de la période romaine. Alors, par exemple, il y a eu des amphores qui venaient d'Espagne ou d'Italie. Il y a eu aussi des poteries qui venaient de la région de Narbonne. Des objets métalliques étaient importés, etc., etc.
Alors comment ces objets et les personnes qui les transportaient pouvaient-ils voyager dans les Landes durant cette période romaine ?
Alors, je voudrais d'abord dire que, tout d'abord, grâce aux textes anciens, nous savons que les voyages étaient possibles, avec notamment plusieurs auteurs antiques, comme Pline l'Ancien, qui est au 1er siècle, puis Ozone au 4e siècle, décrivent succinctement la traversée des Landes. C'est sur le pauvre et sa population qui est comparé aux Ibères. Ensuite, il y a un texte qui est vraiment très important pour les historiens, qui est l'itinéraire d'Antonin, qui est daté du 3e siècle, et qui mentionne 2 voies romaines dans les Landes. La première qui relie Bordeaux à l'Espagne en passant par Dax, et la seconde qui relie directement Bordeaux à Dax. Il y avait sur ces 2 voies des étapes, que l'on appelle des stations romaines ou des mensiaux, et qui étaient nommés avec des distances les séparant.
Alors, qu'étaient ces stations et comment se présentaient-elles ?
Les stations mensiaux sont des lieux qui sont situés non loin ou contre les voies et qui permettaient aux voyageurs de se reposer, de faire reposer les animaux ou de les échanger dans le cas de voyages officiels comme les transports de courrier. Hein. Quand un cheval était fatigué, on l'échangeait, on en prenait un second. Et on y retrouve donc toutes les commodités que l'on pouvait rencontrer dans les demeures romaines.
Donc on pouvait, par exemple, y dormir.
On pouvait y dormir, y manger, se reposer, bien évidemment, avoir toutes les commodités que l'on pouvait avoir dès cette époque, puisque je rappelle qu'à cette époque, il y avait vraiment toutes les commodités que l'on retrouve aujourd'hui dans nos maisons.
Alors, revenons un petit peu aux voies romaines des Landes.
Nous connaissons l'une d'elles, que l'on appelle aujourd'hui la voie littorale, puisqu'elle longe la côte et passe par les lacs côtiers. Cette voie correspond à ce que l'on appelle une voie principale, puisque sa largeur oscille entre 15 et 22 mètres. À l'époque de sa découverte, au 19e siècle, les chercheurs ont choisi de faire de cette voie l'axe Bordeaux-Espagne, qui est mentionné dans les textes, et donc d'associer les stations de l'itinéraire au site archéologique qui avait été découvert à l'époque. Alors c'est ainsi que le site de Sanguinet est devenu la station antique de Loza, le site girondin de la Motte-Biganon est devenu Boyos, etc., etc., etc. Parallèlement, il fallait aussi trouver la seconde voie qui était mentionnée dans l'itinéraire d'Antonin. La première était supposée, la deuxième, il fallait la trouver. Et là, les chercheurs se sont appuyés sur la toponymie, c'est-à-dire l'étude des noms des lieux, pour imaginer un itinéraire qui est plus court, comme mentionné par les textes. Au fil du temps, en fonction des différents chercheurs, le tracé de cette supposée voie a évolué, et encore récemment avec la découverte de tronçons de voie qui ont été découverts par des images aériennes. Alors à ce jour, cette voie reste théorique. On ne sait pas à quoi attribuer les tronçons découverts. En effet, est-ce qu'ils correspondent à un nouvel itinéraire qui a été mis en place lorsque, vers le 3e siècle, les lacs côtiers se sont formés? Parce que je vous rappelle que ces lacs sont artificiels, ils se sont formés par la création de dunes sur le littoral. Avant, il n'y avait que des rivières à la place. Et donc, ces lacs, la formation de ces lacs a ennoyé les voies qui passaient près de l'embouchure de ces ruisseaux. On ne sait pas si les tronçons qui ont été découverts sont bien antiques, mais ce qui est certain, c'est qu'aucune découverte archéologique n'a été à ce jour réalisée sur le tracé de ce qu'on appelle la voie intérieure.
Alors, une autre voie a été découverte dans les années 90, tout à fait à l'intérieur et même à la limite du département des Landes vers l'est, puisque c'est la voie qui reliait Aire-sur-la-Dour à l'Escar. Elle passait notamment par La Trie, Miramont. Elle a été reconnue par photographie aérienne, par François Didier Jean.
C'est bien ça, oui.
C'est très net. Longtemps, cette route était quand même... un petit peu connu des habitants, dans la mesure où on l'a surnommé le chemin de Sainte-Quitterie pendant des siècles, puisque c'est là que Sainte-Quitterie est supposée avoir parcouru finalement un chemin très très important en se sauvant, puisqu'elle ne voulait pas donc épouser le prince qui lui avait été donc attribué. Alors ce chemin de Sainte-Quitterie, qui n'est qu'un surnom en fait, a été reconnu par l'archéologie aérienne. On a même fouillé une petite station.
Oui, on a fouillé une petite station sur le parcours de cette voie, mais elle a été surtout reconnue par la photographie aérienne, comme tu le mentionnes, par François Didier Jean. Hein. Elle passe bien dans les Landes, à l'est du territoire. Hein. Et aujourd'hui, on sait qu'elle permet de relier, au moins la portion que l'on a découvert, elle permet de relier Aire à l'Escar. Et il y a une station qui a été fouillée, alors je n'ai plus le nom là en tête du fouilleur, mais il a confirmé qu'il y avait bien là une station, comme on le décrit tout à l'heure, avec toutes les commodités qui existaient à cette époque-là.
Donc finalement, l'itinéraire d'Antonin, dont tu parlais tout à l'heure, ne mentionne que les principales voies. Toutes les autres...
L'itinéraire d'Antonin n'est pas parfait. Il ne mentionne pas toutes les voies de l'Empire. Mmh. Cet itinéraire, normalement, est un recensement de toutes les voies, au moins les voies principales qui existaient dans l'Empire romain. Mmh. Et pour les Landes, il ne mentionne que deux voies principales, donc des voies très larges, les autoroutes de l'époque. Mais il ne mentionne pas les autres, on ne sait pas pourquoi. Donc comme tu le dis, la voie Aire-Lescar, il ne la mentionne pas. Il ne mentionne que deux voies, comme je l'ai dit tout à l'heure, une qui vient d'Espagne et une qui relie directement Bordeaux à Dax.
Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, lorsque les Romains en République, durant la République romaine, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus-Christ officiellement, pendant cette période, les Romains ont construit des voies en Italie, puis ensuite en dehors de l'Italie, quand ils ont commencé leur conquête, essentiellement pour que les légions romaines, qui constituaient donc l'ossature de l'armée, qui était une armée extrêmement solide et extrêmement professionnelle, il fallait que les légions se déplacent très vite. Donc, à l'origine, c'était bien les légions romaines qui ont commencé par construire les voies. Donc, c'est-à-dire que les légionnaires avaient effectivement quand même pas mal de compétences. Ils étaient capables de faire ces constructions, donc de casser notamment des pierres, de manière à ensuite paver les voies, par exemple. C'était un gros travail. Et ils les ont construits. Ils ont construit les principales voies qui leur permettaient de se déplacer le plus rapidement possible d'un endroit à l'autre de l'Empire. Donc, effectivement... Au départ, on ne peut pas dire que les voies qui pouvaient relier, par exemple, ensuite une villa à une autre, ce ne sont pas des voies empruntées forcément par les légionnaires. Ça, ce sont des voies commodes.
Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon archéologique des voies secondaires ou des voies de servitude, puisque ce sont vraiment des voies qui sont privées, on va dire. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que tu dis. Effectivement, au début... c'est l'Empire romain qui a construit des voies, notamment en Italie, pour pouvoir acheminer les troupes beaucoup plus rapidement. Ce que l'on se rend compte, nous, notamment dans les Landes, c'est que les voies dites romaines s'appuient sur des voies plus anciennes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réinventé l'eau chaude, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré un tracé qui était ancien, mais ils l'ont amélioré en créant une chaussée bordée de fossés et surtout un réseau qui est entretenu. C'est la particularité qu'avaient donc les Romains. Ils ne s'appuyaient que sur des réseaux qui étaient, dans notre cas, existants, en les améliorant, ce qui permettait aux troupes et aussi au commerce, puisqu'il ne faut pas oublier que les Romains pratiquaient avant tout du commerce, cela permettait de fluidifier un petit peu les transports pour des besoins commerciaux.
Bon, eh bien, Didier, merci beaucoup pour ces précisions. On va peut-être passer à l'annonce d'une pause musicale.
Oui, alors moi je vous propose d'écouter Desireless, Voyage, Voyage, qui est tout à fait dans la thématique.
Alors, après avoir écouté donc ce morceau de musique Voyage, Voyage, qui était bien dans le thème, nous allons reprendre le cours de cette émission consacrée aux voies romaines et aux voyages dans l'Antiquité, dans notre département. Alors Didier, tu nous as parlé notamment des principales voies qui sont connues dans les Landes, qui sont notamment la voie littorale et une voie donc qui va vers Dax et qui ensuite relie l'Espagne. Eh bien, maintenant, nous allons peut-être nous intéresser à d'autres voies, parce qu'il y avait des voies secondaires dont l'usage était quand même un peu différent, puisque c'était beaucoup sans doute de voies privées. Et tu vas nous en parler, puisqu'il y a des découvertes tout à fait intéressantes.
Alors, il y a eu des découvertes tout à fait intéressantes, et même, je peux rajouter un superlatif, elles sont extraordinaires d'un point de vue archéologique, puisqu'on pensait que toutes les voies avaient été découvertes dans la région, et surtout dans le département des Landes. Tout le monde s'appuyait sur les deux fameuses voies intérieures et littorales qui étaient mentionnées dans les textes, et sur lesquelles de nombreux chercheurs travaillaient. Mais l'an dernier, un jeune chercheur du Centre de Recherche Archéologique sur les Landes, qui est l'association à laquelle j'appartiens et qui fait beaucoup de recherches archéologiques dans notre département, ce jeune chercheur romain a découvert les premiers tronçons de plusieurs nouvelles voies grâce à ce que l'on appelle le LIDAR qui est fourni par l'Institut Géographique National. Ce LIDAR, je vous rappelle que c'est un système de laser embarqué sur un aéronef et qui permet d'obtenir une image du relief, même sous la forêt. Donc grâce à ce LIDAR, on peut savoir s'il y a des sites qui se cachent sous la forêt, pas sous le sol, hein, c'est pas un outil non plus magique, mais sous la forêt, comme cela est utilisé notamment pour découvrir les sites Maya et Inca en Amazonie. Donc Romain a découvert deux voies principales, qui sont ce que l'on appelle les véritables autoroutes de l'époque. La première, c'est la voie des rivières, qui relie Bordeaux à Tartas. La seconde, c'est celle que l'on appelle la voie Meino, qui relie Bazas à l'Adour. Ces deux voies sont larges de 13 à 21 mètres. Elles passent par des sites anciens, ce qui montre, comme on le disait tout à l'heure, qu'elles sont plus anciennes que la période romaine. Grâce à des portions de voies découvertes autour de l'actuel village de Goutz et à Saint-Sevé, et à la vue des découvertes des nouvelles voies principales, nous croyons aussi en l'existence d'une voie qu'on appelle transversale, hein, d'est en ouest, qui permet de relier Dax à Aire-sur-l'Adour et qui est située, elle, sur la rive droite de l'Adour. Nous avons aussi découvert un réseau de voies secondaires, qui sont les nationales de l'époque, hein, les départementales de l'époque, des voies plus petites, hein, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Jeanne-Marie. Et ainsi, nous avons par exemple découvert un nouveau carrefour de voies à Sabre, ainsi que la voie qui relie la villa de Brocas-les-Forges au site qui se trouve le long de la rivière Les Strigons. Il y a une voie ici qui passe, et grâce au LIDAR, maintenant, on a pu la découvrir. On a toujours dans notre esprit les bandes dessinées d'Astérix, hein, où les voies qu'ils empruntent sont pavées, comme tu disais tout à l'heure, hein. Mais ça, en fait, il faut l'oublier, notamment dans notre région. Alors, c'est vrai autour de Rome, ou dans des endroits où il y a du pavé ou du caillou, puisque dans les Landes, toutes les voies sont ce que l'on appelle des via terrenae, c'est-à-dire des voies en terre. Les Romains construisaient avec ce qui était disponible localement, et toutes les voies romaines landaises sont donc en sable compacté, avec parfois des recharges de galets ou de cailloux pour renforcer la chaussée, et cette chaussée est bordée de fossés. Donc là, c'est très important, il ne faut pas imaginer que les voies que l'on découvre dans les Landes sont pavées, elles sont réalisées en sable. Alors ces voies étaient entretenues, comme on le disait tout à l'heure, notamment pour éviter le comblement des fossés, mais on ne connaît rien de l'organisation faite pour entretenir ces voies. Malheureusement aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui entretenait ces voies, qui payait pour les entretenir. Est-ce que c'était à la charge de l'Empire? Est-ce que c'était à la charge des cités? Est-ce que c'était à la charge des grands propriétaires? Pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, nous n'en savons absolument rien. Mais ce que l'on sait maintenant, c'est que toutes les voies que l'on a trouvées créent un véritable maillage de communication qui existait dans notre actuel département des Landes, et spécialement à l'époque romaine. C'est ainsi qu'on circulait les marchandises, les biens, les animaux, et surtout les humains. Alors, le transport pouvait se faire à pied, à dos d'animal ou par chariot, puisqu'on a retrouvé des traces d'ornières un peu partout dans les Landes de Gascogne. Mais nous nous demandions, par exemple, où et comment étaient acheminées les productions de goudron de la vallée de la Lère. Hein. Ça fera l'objet d'une seconde émission. Et on se demandait par où ces productions de goudron, qui étaient une production assez importante, par où elles circulaient et comment elles étaient acheminées vers leur destination. Eh bien, nous avons aujourd'hui la réponse, puisque la voie des rivières, donc la voie principale qu'a découvert Romain, passe au pied de toutes ces productions de goudron.
Alors, moi, j'ai trouvé une petite remarque d'un écrivain, Ozone, qui est un écrivain donc, du 4e siècle. Il écrit qu'il fallait embasader, hein, c'est-à-dire au nord du département des Landes, il fallait 30 chevaux pour tirer un charroi. Il n'exagère pas un petit peu, il devait être lourd, ce charroi.
Moi, je pense que soit le charroi est très, très grand, oui. Parce que 30 chevaux, c'est beaucoup. En général, c'était plutôt des attelages de 2, 4, 6 maximum. Hein.
Voilà, donc on avait...
30 chevaux, je ne vois pas pourquoi il a mentionné 30.
Peut-être qu'il s'agissait de transport très lourd. Oui, on va dire qu'il a un petit peu exagéré.
Je pense, oui. Je pense qu'il y a eu... Ou alors, il y a une erreur de traduction aussi. Hein.
Oui.
Ce qui est tout à fait possible.
D'accord. Alors, revenons à nos voies terrestres. Donc, en dehors de ces voies que tu nous as présentées dans le détail, existait-il un transport fluvial?
Alors, comme tu le dis, Jeanne-Marie, il y avait du transport qui pouvait se faire par voie routière, mais il pouvait y avoir aussi du transport qui pouvait se faire, effectivement, par voie fluviale. On en a la preuve, hein, puisque notre fleuve Adour a assurément servi à transporter des charges importantes, puisque Brigitte Vattier, qui était une archéologue locale très active dans les années 80, a découvert l'équivalent d'une cargaison d'amphores sur la commune de Cona, en bordure de l'Adour. Donc cela montrait bien qu'il y avait du transport fluvial qui se faisait à l'époque romaine. Le fleuve ne devait certainement pas être navigable sur tout son parcours, hein, puisque on pense qu'il était navigable entre Saint-Sevé et Goutz. Et après, il devait être une autre partie devait être encore une fois navigable après Goutz. On n'en a pas les preuves pour l'instant. Hein. Il y a des recherches qui se font actuellement dans le lit de l'Adour, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a eu aucune découverte de bateaux de l'époque romaine. Mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'il existait des zones de transfert de charge, c'est-à-dire que l'on passait du transport fluvial au transport routier. Le site de Goutz en est un exemple, mais le site qui a été récemment fouillé à Saint-Sevé peut en être aussi un second exemple. Il y avait donc cette alternation entre le transport fluvial et le transport routier qui se faisait dans les Landes. D'autres rivières principales, comme la Midouze, la Lair, le Bèze ou l'Estrigon, ont certainement aussi servi au transport de marchandises. Alors, on pense notamment au bois flotté ou au transport par de petites embarcations à fond plat, telles que celles qui ont été découvertes sur Sanguinet. Un port maritime devait aussi exister sur la côte, ça on en est quasiment sûr, puisqu'il y a eu une épave de bateau du 3e siècle qui a été retrouvée sur l'île anglo-normande de Guernesey. Cette embarcation transportait des pains de goudron, le goudron dont je vous parlais tout à l'heure et qui fera l'objet d'une émission suivante. Et ces goudrons auraient été chargés quelque part entre Bayonne et l'estuaire de la Garonne. Mais où est ce port? Ça, c'est la question que l'on se pose. Hein, et peut-être que la recherche archéologique trouvera prochainement une réponse sur la localisation de ce port. Donc, si, pour ma part, je peux conclure sur tout le transport, hein, les Landes, et plus particulièrement l'est de notre département, n'étaient pas un territoire enclavé, mais plutôt une zone où les transports étaient aisés.
Eh bien, merci Didier, parce que grâce à des archéologues comme Didier et ce jeune Romain, nous découvrons tout un pan méconnu de l'histoire des Landes qui concerne les déplacements. Et cela, bon, évidemment, parce que déjà, nous n'avons pratiquement pas de textes, hein, très très peu, quelques allusions dans des textes antiques. Et que, au niveau archéologique, il est bien difficile de découvrir des preuves des déplacements en dehors de, éventuellement, ben voilà, des bateaux. Bon, on en a trouvé, mais plutôt pour la période précédente, plutôt que pour l'époque où, par exemple, les pirogues de Loza. Donc, c'est plutôt un petit peu plus ancien.
Les pirogues de Loza, certaines sont datables de l'époque romaine, mais du 1er siècle. Et ce sont vraiment les embarcations les plus anciennes qu'on ait trouvées dans notre département. Il y a des embarcations plus récentes qui ont été découvertes dans l'Adour, mais malheureusement, rien entre le 1er siècle et le 14e siècle.
Oui, on peut juste imaginer qu'on continuait d'utiliser effectivement ces bateaux à fond plat, puisque c'est effectivement la particularité de l'ensemble de la Doure et des rivières affluentes que d'avoir un débit quand même assez irrégulier, qui ne permet pas forcément d'avoir autre chose que des bateaux à fond plat. Alors donc, après la fin de l'Empire romain, ces voies ont continué à être empruntées pratiquement jusqu'aux environs de l'an 1000. Nous en avons un exemple qui est celui de la route de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe par Dax, qui passe près de Sœur de l'Abbaye d'ailleurs, et qui ensuite qui se dirige vers le col de Roncevaux, même si ce n'est pas tout à fait au même endroit qu'aujourd'hui le col de Roncevaux. C'est par là qu'était passé Charlemagne, je vous rappelle, le col de Roncevaux, durant laquelle la partie arrière de son armée avait été décimée donc par les Vascons, et non pas par les Sarrasins, par les Vascons. Donc, encore dans les textes du XIXe siècle, eh bien, on trouve des mentions de voies romaines, ce qu'on appelle le Camin Rumiu, par exemple, ou le Camin Ariu. Moi, j'en ai trouvé dans des textes même du XIVe, du XVe. On continue toujours de s'appuyer sur ces mentions. Donc, ce sont des voies qui, malgré tout, ont eu une sacrée durée. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que nos autoroutes, dans 1500 ans, soient toujours là.
Pas sûr non plus. Hein.
Bon, alors effectivement, on est bien d'accord. Merci Didier pour ces informations importantes.
Merci Jeanne-Marie et merci à tout le monde.
La prochaine émission sera consacrée à la production de goudron. Et oui, vous avez bien entendu, la production de goudron. Goudron sans hydrocarbures dans les Landes. Au revoir.
Au revoir.